sommes le mardi 7 mai 2024 et il est 17h30 en temps universel. Madame, monsieur, bienvenue à l'écoute. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter le monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Les titres que nous allons développer dans cette édition, le Bénin bloque l'embarquement du pétrole nigérien, exigeant la réouverture de la frontière commune. Après les législatives, le parti au pouvoir au Togo remporte largement les régionales, alors que l'opposition appelle à se réinventer après sa débâcle.
Les résultats des législatives et des régionales ont complètement redessiné le paysage.
Le président américain Joe Biden promet de combattre la progression redoutable de l'antisémitisme. Des chars israéliens déployés à Rafah, l'accès humanitaire coupé à Gaza. Pour protester contre le maintien de la fermeture des frontières du côté du Niger, le Bénin bloque l'importation du pétrole nigérien. Le point avec Ginette Fleur Adande, notre correspondante à Cotonou.
Le gouvernement béninois bloque l'embarquement du pétrole nigérien au Bénin. La décision prise lundi 6 mai a été notifiée à l'ambassadeur de Chine au Bénin et à la société de gestion du pipeline. Une mesure de protestation contre le maintien de la fermeture des frontières du côté nigérien à la station de Semen, point de chute du pipeline d'environ 2000 km entre les deux pays. Quelques 90 000 barils de pétrole sont chargés par jour. Pourtant, sous prétexte de présence française au nord Bénin, le Niger a maintenu ses frontières fermées. La posture du Niger constitue une situation incohérente, affirme une source proche du gouvernement béninois qui salue la suspension qu'elle qualifie de belle décision qui préserve ainsi l'honneur du peuple béninois. Au sein de la population, on craint le retour du bras de fer entre les deux pays. Au total, le pipeline traverse 5 départements, 17 communes et 152 villes et villages. Il devrait rapporter au Bénin environ 490 millions de dollars, soit 300 milliards de francs CFA de recettes fiscales sur 20 ans. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
Dans l'actualité également, les autorités togolaises ont averti ce mardi le média français RFI, Radio France Internationale, qu'il risquait d'être suspendu s'il continuait à diffuser des informations erronées concernant la situation au Togo dans une lettre de mise en demeure adressée à la directrice générale. Cet avertissement intervient dans un contexte de tension politique au Togo après l'adoption d'une nouvelle constitution destinée, d'après l'opposition, à maintenir le président Faure Gnassingbé au pouvoir et la tenue des élections législatives et régionales largement remportées par le parti au pouvoir fin avril. Sollicitée par l'AFP, la direction de RFI n'avait pas donné suite dans l'immédiat. Nous reviendrons sur le Togo tout à l'heure dans la partie magazine. En Côte d'Ivoire, 13 personnes impliquées dans un trafic international de cocaïne ont été condamnées aujourd'hui à 10 ans de prison. Les 13 individus de différentes nationalités devront également payer chacune 50 millions de francs CFA d'amende, soit un peu plus de 82 000 dollars. Parmi eux figurent un élu d'un conseil régional et un commissaire de police ivoirien, César Ouattara et Dosso Karamoko. L'espagnol Miguel Angel Devesa, cerveau des opérations, a également été condamné à verser environ 98 millions de dollars de dommages et intérêts à l'État ivoirien. Les condamnés ont 20 jours pour faire appel. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, est en Libye pour une visite axée sur la coopération bilatérale, des rencontres avec des dirigeants des deux camps rivaux qui se disputent le pouvoir sont au menu de son agenda. Davantage avec Alexandrine Roulignon.
C'est la deuxième visite en Libye de Giorgia Meloni depuis sa prise de fonction. Accompagnée d'une délégation ministérielle, elle s'est entretenue peu après son arrivée avec le chef du gouvernement basé à Tripoli, Abdelhamid Deiba, selon des sources officielles. Après Tripoli, Meloni doit se rendre à Benghazi pour rencontrer le général Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Les ministres italiens signeront avec leurs homologues libyens des déclarations d'intention sur des projets de coopération, notamment dans les domaines de la santé et de l'enseignement. Ces accords s'inscrivent dans le cadre du plan Mattei, qui préconise un rapport de coopération avec les pays africains en les aidant à développer leurs ressources naturelles. Giorgia Meloni avait plaidé le 17 avril pour une nouvelle approche à l'égard de l'Afrique, notamment sur le dossier migratoire, lors d'une visite en Tunisie. Pays voisin de la Libye est l'un des principaux points de départ de migrants vers l'Europe.
La présidente d'une association antiraciste en Tunisie a été arrêtée et placée en garde à vue pour 5 jours, indiquent une ONG et des médias. Au moment où les autorités mènent une campagne contre les migrants africains clandestins, il s'agit de Saadia Mosba, présidente de l'association Nemti. Selon des médias tunisiens, Madame Mosba, une Tunisienne à la peau noire, a été arrêtée par la police hier soir pour des soupçons de blanchiment d'argent et son domicile fouillé. Madame Mosba et son association avait été en première ligne dans la défense des migrants originaires d'Afrique subsaharienne en Tunisie après un violent discours en février 2023 du président tunisien Kais Saied dénonçant l'arrivée des hordes de migrants clandestins dans le cadre d'un complot pour changer la composition démographique du pays. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé ce mardi que le dossier mémoriel avec la France sur l'époque coloniale ne saurait faire l'objet de concessions ni de compromis et devait être traité de manière audacieuse. Le dossier de la mémoire ne saurait faire l'objet de concessions ni de compromis et restera au cœur de nos préoccupations jusqu'à son traitement objectif, audacieux et équitable envers la vérité historique, a affirmé M. Tebboune dans un message à l'occasion de la journée de la mémoire marquant l'anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Les secouristes redoublent d'efforts ce mardi pour retrouver 47 ouvriers piégés dans les décombres d'un immeuble en construction qui s'est effondré la veille à George, sur la côte sud-africaine, et dans lequel 6 personnes ont déjà péri, d'après le dernier bilan des autorités. Toujours en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a condamné un spot de campagne du principal parti d'opposition DA en vue des législatives du 29 mai, montrant un drapeau du pays avec sa riche symbolique multiraciale mise à feu. En ce qui concerne l'incendie du drapeau, même dans une publicité politique, il s'agit d'une trahison, a déclaré le chef de l'État lors d'une visite dans la province de Limpopo. Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU a appelé ce mardi le Soudan du Sud à retirer ses troupes de la région d'Abyei, disputée avec le Soudan, mettant en garde contre le risque d'alimenter les tensions dans la région.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Je vous le disais en titre, le président Joe Biden a condamné ce mardi la montée féroce de l'antisémitisme en Amérique et dans le monde lors d'une cérémonie tenue à Washington en mémoire des victimes de l'Holocauste. L'événement a eu lieu alors que la guerre à Gaza déclenche des vagues de violence et une rhétorique haineuse à l'égard des Juifs. Les détails avec Nanit Talani.
Nous courons le risque que les gens ne connaissent pas la vérité, a déclaré M. Biden à propos des horreurs de l'Holocauste lorsque 6 millions de Juifs ont été systématiquement tués par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs. Cette haine continue d'habiter le cœur de trop de gens dans le monde, a-t-il ajouté. Les remarques de M. Biden interviennent alors que des manifestations pro-palestiniennes secouent les campus universitaires à travers les USA et dans le monde entier. Certaines comportent des chants antisémites et des menaces à l'encontre d'étudiants juifs et de partisans d'Israël. Il n'y a pas de place sur un campus américain, n'importe quel endroit en Amérique, pour l'antisémitisme, les discours de haine et les menaces de violence, de quelque nature que ce soit, a martelé M. Biden. Le président démocrate s'efforce aussi de trouver un équilibre entre son soutien à Israël après l'attaque du Hamas du 7 octobre et ses efforts pour protéger la vie des civils à Gaza.
La communauté internationale se dit inquiète face à l'offensive d'Israël à Rafah dans la bande de Gaza. Un dirigeant du Hamas a averti que les pourparlers autour d'un projet de cessez-le-feu dans la bande de Gaza représentent la dernière chance pour obtenir la libération des otages qui y sont retenus. Yacouba Ouedraogo.
Le premier ministre Benjamin Netanyahou a indiqué qu'Israël a envoyé une délégation auprès des médiateurs au Caire pour négocier un projet de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Il dit avoir donné pour consigne à la délégation de continuer à se montrer ferme sur les conditions nécessaires à la libération des otages et sur les conditions essentielles pour garantir la sécurité d'Israël. Le Hamas a affirmé hier avoir accepté un projet de trêve soumis par l'Égypte et le Qatar. Selon un haut responsable du mouvement palestinien, leur délégation, censée partir pour l'Égypte, a annulé son départ en raison de la prise de contrôle par Israël du côté gazaoui du point de passage de Rafah vers l'Égypte. Les forces armées israéliennes sont entrées dans Rafah où se trouveraient jusqu'à présent plus d'un million de personnes, a affirmé Gabriel Attal, premier ministre français. La nuit dernière, l'armée israélienne a intensifié ses frappes sur certains quartiers de Rafah, dernier bastion du Hamas dans le sud de la bande de Gaza, selon Israël.
Voilà pour le journal. Sans plus tarder, la Minute Écho avec Jean-Roger Billon.
Amazon a lancé ce mardi 7 mai 2024 son service de vente en ligne en Afrique du Sud. La compagnie américaine de commerce en ligne prend ainsi pied dans un marché dominé par des acteurs locaux dont la plateforme Take a Lot, créée en 2011 par le conglomérat Naspers. Au Togo, les crédits accordés par les institutions de microfinance ont progressé de 6,5% au quatrième trimestre 2023. À l'échelle de l'UEMOA, l'encours des crédits a augmenté de 125,3 milliards de francs CFA, soit une progression trimestrielle moyenne de 5,1% pour atteindre un total de 2561,1 milliards de francs CFA. Au Kenya, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un fonds pour rénover les routes et ponts endommagés par les inondations créées par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le pays pendant des semaines et qui ont causé plusieurs centaines de morts. La mobilité est devenue pénible dans certaines régions du pays avec le niveau des eaux qui ont couvert plusieurs routes.
Et maintenant, la page sportive avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Basketball Africa League, après un jour de repos hier, la conférence Sahara a repris les hostilités ce mardi à Dakar.
Oui, fort de deux victoires d'affilée, les Rivers Hoopers du Nigeria veulent confirmer face aux Tunisiens de l'US Monastir, qui compte une victoire en deux matchs. Dans l'autre rencontre, le club hôte, l'AS Douane du Sénégal, qui a réussi un énorme match dimanche face à Monastir, affronte les Rwandais d'APR à la Dakar Arena. Pour rappel, ces quatre équipes sont en lice pour deux tickets qualificatifs directs pour les playoffs prévus à la fin de ce mois à Kigali, au Rwanda.
Ici, en NBA, les playoffs se poursuivent. Minnesota étouffe Denver.
Les Timberwolves ont réussi une démonstration de force sur le parquet du champion Denver pour un succès 106 à 80 qui leur permet de mener 2 à 0 dans la série. Après avoir corrigé Phoenix 4 à 0 lors du premier tour, Minnesota, qui ne compte qu'une seule finale de conférence en 35 ans d'existence, n'a toujours pas perdu un match de playoff avant le match 3 vendredi à domicile. Dans l'autre rencontre, Jalen Brownson a compilé 43 points, 6 rebonds et 6 passes décisives pour permettre aux New York Knicks de s'imposer face aux Indiana Pacers 121 à 117 lors du premier match de la série.
Toujours ici en NBA, Victor Wembanyama désigné rookie de l'année.
C'est une première pour un Français, Victor Wembanyama, âgé de 20 ans, drafté en numéro 1 par les San Antonio Spurs en juin 2023, décroche ainsi un premier trophée. Si les résultats collectifs n'ont pas été au rendez-vous avec la 14e place sur 15 à l'ouest des Spurs, la première saison du géant français 2m24 a été réussie sur le plan individuel lors de ses 71 des 82 rencontres de sa franchise. Wemby a affiché en moyenne 21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes décisives et 3,6 contre, devançant le pivot d'Oklahoma City, Chet Holmgren. Il succède ainsi au joueur du Magic d'Orlando, Paolo Banchero.
Et en Europe, on connaîtra ce soir le premier qualifié pour la finale de la Ligue des Champions.
Pour rejoindre Wembley et la finale tant convoitée, le Marocain Achraf Hakimi et le Paris Saint-Germain sont dos au mur au Parc des Princes, contraints de renverser une nouvelle fois la situation face à Dortmund. Après le revers du match aller 1 à 0, les hommes de Luis Enrique devront l'emporter d'au moins un but pour jouer la prolongation et plus s'ils veulent décrocher une qualification sans passer par des tirs au but. 4 ans après la finale perdue à Lisbonne contre le Bayern Munich, les Parisiens pourront s'appuyer sur la préparation mentale qui avait fonctionné au tour précédent. Au vu de leur performance à Barcelone 4-1, ça sera le dernier match en Ligue des Champions sous les couleurs parisiennes au Parc pour leur superstar Kylian Mbappé.
Merci bien Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en ce mardi 7 mai 2024. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Unir, le parti au pouvoir au Togo a largement remporté les élections régionales du 29 avril après sa victoire écrasante législative tenue le même jour. L'Union pour la République a décroché 137 sièges sur les 179 mis en jeu lors du scrutin régional d'après des résultats provisoires. L'opposition condamne un hold-up électoral tout en appelant à se réinventer après sa lourde défaite alors que le président Faure Gnassingbé vient de promulguer la nouvelle constitution qui fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Pour un décryptage, j'ai joint à Lomé Louis Magloire Kemayou, président du Club de l'information africaine.
Le fait que le président ait proclamé la nouvelle constitution signifie que l'on est arrivé à la fin du processus de décentralisation qui avait été engagé en 2017 à travers les réformes institutionnelles et constitutionnelles qui ont précédé les élections de 2018 et de 2020. Et là, c'est le parachèvement de tout cela avec cette élection et la promulgation de la nouvelle constitution qui font entrer le pays dans une nouvelle ère.
Les résultats maintenant connus du double scrutin législatif et régional ont-ils redessiné la carte politique togolaise?
Oui, les résultats des législatifs et des régionales ont complètement redessiné le paysage parce que l'opposition parlementaire qui était, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, a été complètement balayée. Elle n'est plus présente. On n'a plus d'UFC, l'Union des forces des changements. On n'a plus de PDP. On n'a plus non plus le NET. Ce sont les forces qui se sont battues dans les années 90, lors de la conférence nationale, qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et cela montre à la fois que l'on a un peu perdu dans le renouvellement de l'élite politique et surtout que même au niveau des discours, beaucoup de choses n'ont pas changé. Et donc, c'est un gros chantier qui s'ouvre avec aujourd'hui, malheureusement, les mêmes acteurs du passé qui devront probablement se renouveler afin de renouveler l'offre politique que représente la Ve République au Togo.
L'opposition a-t-elle perdu deux fiefs qu'elle détenait pendant des années et des années?
Oui, pendant très longtemps, on a eu l'impression que le pays était coupé en deux, que le nord du pays était acquis à l'ancien parti, le RPT, le Rassemblement du Peuple Togolais, auquel a succédé UNIR, l'Union pour la République. Et généralement, les meilleurs scores du RPT et de UNIR se faisaient entre les plateaux et le nord du pays. Aujourd'hui, on a vu à la fois le Grand Lomé et Anéra tomber dans l'escarcelle de UNIR, ce qui est une grande première sur le plan historique. Cela ne s'est jamais produit jusqu'à présent. En plus de 60 ans d'indépendance du pays, ces villes ont radicalement toujours voté contre le RPT et l'on se retrouve aujourd'hui avec un renversement de situation qui profite à UNIR et à ses alliés.
Alors justement, comme elle le dit elle-même, l'opposition togolaise, qui par ailleurs fustige une mascarade électorale, doit-elle se réinventer après sa débâcle, surtout en lien avec ce nouveau régime parlementaire désormais en place?
Moi, je crois que l'opposition togolaise gagnerait véritablement à pratiquer une introspection et à réaliser à quel point elle est en déphasage probablement avec la réalité du terrain, parce que l'on se retrouve aujourd'hui avec le Grand Lomé qui tombe dans l'escarcelle de UNIR, avec Anéra qui tombe dans l'escarcelle, et je ne remonte pas dans les régions des plateaux ou du centre, qui sont également des chefs qui sont restés entre les mains de la majorité. Cela signifie simplement que au-delà de consolider sa base, son fief électoral, UNIR est allé grignoter dans le fief de ce qui représentait la base électorale des partis d'opposition. C'est-à-dire qu'il y a eu une déception quelque part.
Le journaliste Louis Magloire Kemayou, directeur de la chaîne de télévision New World Economy au Togo.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Au Mali, après les consultations locales, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a donné le coup d'envoi hier à Bamako à la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, avec pour but de produire, sans intervention étrangère, des solutions pour sortir le pays de la crise dans laquelle il est plongé depuis des années. Le dialogue, qui doit s'achever ce vendredi, est boycotté toutefois par une grande partie de ce qui reste de l'opposition. Modibo Dembélé de la rédaction Bambara de VO Afrique a recueilli la réaction de Sékou Berté, l'ambassadeur du Mali, ici à Washington.
Je pense que c'est une occasion donnée à tout et chacun, à chaque Malien et chaque Malien, de venir s'exprimer sur l'avenir du pays. Donc c'est pourquoi le gouvernement, à travers les plus hautes autorités, ont décidé d'organiser ce dialogue qu'ils ont appelé dialogue intermalien pour débattre de toutes les questions intéressant la nation. Toutes les questions qui vont intéresser l'avenir et le présent de la nation malienne sont à décider au cours et sont à débattre au cours de ce dialogue. Donc vraiment pour moi, pour l'instant quand même, c'est un sentiment de fierté vu le nombre de personnes dans la salle et en ligne en train de nous suivre. Donc ça veut dire que chacun, où qu'il soit, vraiment est intéressé par ce dialogue.
Et quel message avez-vous pour les Maliens de la diaspora par rapport à ce dialogue intermalien?
Le message que j'ai à lancer à tout et chacun, c'est de prendre part activement à ce dialogue et de vider tous ceux qui sont sur eux. À travers les 5 thématiques données par les autorités, à savoir paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, 2, questions politiques et institutionnelles, 3, économie et développement durable, 4, aspects sécuritaires et défense du territoire, 5, géopolitique et environnement international. Donc voilà les thématiques qui seront débattues et chacun, chacune où qu'il soit, vraiment est appelé à donner ses impressions, ses idées sur ces 5 thématiques pour qu'on ait une nation vraiment qui veut aller de l'avant, pour mettre en place, donner les ressorts nécessaires pour aller de l'avant.
Et dernier message, nous savons qu'il y a beaucoup de Maliens qui sont là et dans les 5 thématiques, on voit effectivement qu'elles portent surtout sur les questions d'ordre national. Alors qu'ici aux États-Unis, votre diaspora, à savoir, les gens ont beaucoup de problèmes concernant la documentation, l'insertion socio-professionnelle, bref, le rôle de la femme. Et est-ce que cette thématique sera abordée aussi durant ce dialogue?
Il a été dit depuis le départ, c'est l'occasion donnée à tout et chacun de dire ce qu'il a sur son cœur, même si c'est au-delà de ces thématiques qui sont là. Donc pour que chacun à son niveau participe et anime ce débat. Donc, ces thématiques ont été citées, mais elles ne sont pas que limitatives. Donc, chacun à son niveau peut aborder d'autres sujets complémentaires dans l'intérêt de la nation. Donc, chacun est libre de dire ce qu'il pense.
Sékou Berté, l'ambassadeur malien aux États-Unis.
Bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
En République démocratique du Congo, de nombreuses voix continuent de réclamer justice pour les victimes du bombardement du camp de déplacés de Mugunga vendredi dernier. Une dizaine de personnes, dont des enfants, ont été tuées et des dizaines blessées dans l'attaque survenue à la périphérie de Goma, où des combats opposent les troupes gouvernementales au mouvement rebelle M23. La diplomatie américaine accuse le Rwanda d'être à l'origine de son bombardement meurtrier, une affirmation récusée par Kigali. Eddie Sango a joint à Goma Regan Kimbale du Comité international de la Croix-Rouge.
Effectivement, il y a eu bombardement des mortiers au niveau des cas de Mugunga le vendredi 3 mai 2024. Et cette situation a créé une panique au niveau des camps parce que déjà notre structure chirurgicale au niveau de l'hôpital d'Endosho avait déjà reçu du coup une vingtaine de blessés. Malheureusement, parmi les blessés, il y avait 4 qui étaient arrivés déjà morts. Alors cette peur a fait assez que Yahi Mouvement a déjà de se déplacer là, qu'il ne voulait plus rester dans les camps parce qu'il se sentait en insécurité. Il y a eu d'autres carrément qui ont décidé de quitter les camps, de déplacer de Lushaga là pour se diriger vers Goma, dans les zones où ils supposaient être en sécurité. Et du coup, d'autres n'ont pas pu retourner dans ces camps-là parce qu'ils avaient peur dire que la situation pouvait se répercuter. C'est ce qui a créé assez qu'il y ait un mouvement de déplacer au niveau des camps. Et c'est d'autres qui sont partis et quasiment la majorité était partie ces jours-là du camp par peur qu'il y ait encore des retombées, des mortiers comme c'était arrivé.
Il y en a donc qui sont restés, mais dans quel état d'esprit vivent-ils?
Esprit de panique, esprit de peur. Et ils ne savent même pas où aller, ils ne savent pas quoi faire parce que s'ils ont été placés au niveau des camps, c'est parce que c'est une zone où ils supposaient être en sécurité. Ils ont été là, ce n'est pas parce qu'ils le voulaient, c'est parce qu'ils ont fui leur zone d'origine, faute compte tenu des combats. Et voilà, du coup, quand il y a de bombardements des mortiers au niveau du camp, ça crée une panique, ça crée la peur et ça fait assez que ces déplacés-là ne sont pas en sécurité. Carrément, d'autres ont décidé de ne plus retourner dans les camps parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité. Et ça leur met dans une condition compliquée, déplorable, où ils n'ont pas de famille, ils doivent chercher ou avoir un abri sécurisé, ils doivent voir comment se nourrir et ça a créé une situation très compliquée. Complexe pour certains jusqu'à présent.
Ce n'est pas le seul endroit où, ni la première fois où des bombes sont lancées dans des camps de déplacés. Hein.
Oui, ce n'est pas la première fois. Ça fait déjà 3 ou 4 fois, d'ailleurs aux alentours de Mugunga. Mais vraiment, ces derniers cas étaient les cas les plus frappants. Parce que déjà, imaginez qu'à nous, au niveau, avec notre équipe chirurgicale du CICR, on a pu, du coup, le même jour, avoir une vingtaine de personnes blessées. C'est que c'était quand même parmi les situations un peu plus complexes par rapport aux autres qui étaient arrivés auparavant. Et il y a eu d'autres sources gouvernementales qui parlent de 14 morts et tout.
Ils sont déjà en détresse, ces gens. Est-ce qu'il y a suffisamment d'assistance pour eux, surtout que maintenant ils sont obligés d'aller dans d'autres camps, de se déplacer à nouveau?
Le problème, c'est que pour le moment, la situation humanitaire est complexe.
Regan Kimbale, responsable de la communication du CICR à Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Un récent sondage Ipsos indique que les menaces qui pèsent sur la démocratie sont devenues la principale préoccupation des électeurs américains, dépassant l'économie et l'immigration. Véronica Baldiras-Iglesias de la VOA nous en dit davantage. Gabi Dorsil raconte.
Lorsqu'ils se sont présentés aux urnes en mars, les électeurs démocrates et républicains inscrits en Arizona ont clairement indiqué leur préférence comme porte-étendard de leur parti le 5 novembre. Howard Webster a voté à Phoenix.
Je pense que Joe Biden est le seul candidat qui nous offre la liberté, la démocratie, la liberté pour tout le monde, pas seulement pour les gens qui votent pour lui.
Nicolas Pella est un autre électeur de l'Arizona.
J'ai voté pour Donald Trump. Je crois qu'il est le seul à vouloir défendre la Constitution telle qu'elle a été écrite. Et il est le seul à être attaqué par tous les autres pour cette raison.
L'extrémisme politique et les menaces qui pèsent sur la démocratie sont les problèmes les plus importants auxquels sont confrontés les États-Unis, selon les électeurs interrogés par Ipsos à la mi-avril. Les démocrates s'inquiètent de l'autoritarisme, selon Clifford Young, président d'Ipsos Public Affairs.
En réalité, les démocrates, lorsqu'ils disent qu'ils sauvent la démocratie, disent en fait qu'ils sauvent la démocratie de Trump. Nous appelons cela le vote anti-Trump et d'après nos estimations, il représente environ 25% de la population adulte.
Les indépendants partagent les préoccupations des démocrates, mais les républicains voient la protection de la démocratie d'un autre œil. De nouveau, Clifford Young d'Ipsos.
La plupart des critiques formulées par la droite républicaine portent sur un système défaillant, un système contrôlé par les élites ou truqué par des élites. En fin de compte, lorsque les républicains parlent de sauver la démocratie, ils parlent en fait de la machinerie électorale et de l'équité des élections en général.
Trump lui-même a insufflé un sentiment d'urgence à ses partisans.
Si nous ne gagnons pas le 5 novembre, je pense que notre pays cessera d'exister. Ce pourrait être la dernière élection que nous n'ayons jamais eue. Je le pense vraiment.
Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 7 mai 2024, prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sagnot. Chers amis fidèles de la VOA, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Toute l'équipe de VOA Afrique se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. À très bientôt. Au revoir.